tell us, let me take my own, right?
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
You are listening to Labor Radio here on CQT 90.3 FM, and this is your co-host, Mustafa Hanaway, always joined with the lovely
Stefan Doucette. Thanks for joining us on this month's edition. We're doing a focus on labor in the Middle East. First, we'll be hearing from Hassan Hosseini about labor for Palestine, and later on, we'll be hearing from Jad Kabanji on labor in Lebanon.
And, you know, we planned this show before the latest round of Israeli aggression against Palestinians, but in a timely and topical manner, especially with the largest general strike in Palestine since 1936. It became really pertinent at this juncture.
So the episode is chock full. We don't have much time to discuss anything with you. But thanks so much for listening, and hope to see you again in our June edition.
It's Labor Radio again, CKUT 90.3 FM.
And welcome to Labor Radio here on CKUT 90.3 FM. And we are have a very special guest today on our show, and in a very important, timely manner, because tomorrow there's been calls for a general strike across Palestine in support of the popular resistance to save Sheikh Jarrah, to end the siege on Gaza, to support the movement against the repression faced of Palestinians inside historic or 48 Palestine. Today we're actually joined with Hassan Hosseini, a longtime organizer and activist based in Ottawa, a longtime member of Labor for Palestine, which is a network across Canada, which he'll talk about during the interview. He is also a negotiator for the Public Service Alliance of Canada and a member of UNIFOR. He is also an educator on the Middle East and formerly was a teacher at the University of Ottawa. And so we're very honored to have Hassan Hosseini with us here today on Labor Radio here on CKT 90.3 FM. Thank you, Hassan.
Hello, thank you for the invitation. Glad to be with you.
So the first question before getting, obviously, the focus of the interview will be the very current moment that we're in. But if you can explain a bit to our audience what Labor for Palestine is and kind of why is it important for labor activists to be in solidarity with Palestine? What's the concern for trade unionists here to be in solidarity with Palestine?
Thank you for this question. Yes, the Labor for Palestine, as you said in your introduction, is a network of activists, pan-Canadian network of activists right across the country. We bring together folks from the labor movement to conduct campaigns to work on educational programs, to try to deepen and broaden the solidarity with the Palestinian people within the labor movement specifically. We, of course, work with other like-minded groups and community organizations, but our focus is on the labor movement itself. And the labor movement is significant to move to a position of solidarity and concrete solidarity with the struggle of the Palestinian people. Labor organizations, labor unions are political organizations by definition. I know there are some people who'd like to reduce the labor movement into a bread and butter issues, just negotiate collective agreements and talk about wage increases and don't say anything else about anything else, whether it is within Canada or at the local level or at the international level. But that's not what labor movements are about. That's not what they've done historically. And it's from that critical understanding of the role of the labor movement as political class organizations that we are engaging with the activists, the rank and file, as well as leaderships within the labor movement at various levels to take the solidarity with the Palestinian people from the level of resolutions and statements to something a little bit more concrete. Although I must say that some unions don't even have good positions yet. So that, of course, continues to be a challenge. But there are a lot who have good positions, and we need to transform those positions into actions. And I say the critical importance of having the labor movement be in solidarity with the struggle of the Palestinian people, especially at this juncture, is a historical in some respects, because the labor movement, although came a little bit late, and there was, of course, contestation within the labor movement itself in Canada during the struggle against South African apartheid, ultimately they played a very important role in the sanctions, boycott, the investment in sanctions movement in South Africa, or that was generated to put pressure on the South African apartheid regime. And we believe that the same thing, the same role, which is critical, can be played by the labor movement in Canada and, of course, Quebec in support of the struggle of the Palestinian people for liberation. So that is the critical part of why we're doing this work within the labor movement.
And can you just talk about briefly about some of the things that Labor for Palestine has actually been able to achieve and in terms of direct support of Palestinian trade unions, in terms of, you know, where you feel the labor movement has actually gone and progressed in terms of its support for Palestine?
So Labor for Palestine first started in Toronto in 2005, after the call in 2005 for BDS that came out of Palestine, came out of the call of 170 unions and civil society organizations in Palestine for the boycott, divestment, and sanctions campaign. Around that time, if you recall, QP Ontario was one of the first unions in the country that adopted a resolution in favor of the BDS movement and the BDS campaign. So Labor for Palestine came out of that particular struggle to get that resolution 50 passed at the convention. And Labor for Palestine did quite a bit of work, in particular in the first period, in relation to developing educational materials for awareness raising, and worked with QP primarily, but with other activists, particularly after Resolution 50 was attacked, and QP Ontario and Sid Ryan, president of QP Ontario at that time, they were attacked viciously by the right and by the pro-Israel apologists and Zionists in Canada and Toronto. So Labor for Palestine played a very important role at that time in defending the position and also working on a number of educational materials to raise the consciousness and the awareness of activists on this issue. And they did that work and were involved in the community on an organizing level for a number of years. We re-established that, you know, activists come and go, so it reached the point where the level of activism dropped down considerably. And you may recall that there was an international labor conference in Hamilton in 2017, the fall of 2017. A number of activists were there, and we met and we decided to relaunch the organization, and we did. And so since then, we've been trying to restart that work and rebuild our contacts with our comrades and sisters and brothers in Palestine. And we have established lots of good connections of activists on the ground in Palestine. Right now we've been engaging in a number of campaigns, primarily in terms of challenging labor unions and labor leaders to take a good position, a real solidarity position with the Palestinian people. We've worked with activists, as an example, NDP activists over the past few weeks to pass that resolution that was adopted and was historic in some respects for the NDP that was passed at the convention in April. So we worked with those activists. Some of them actually belong to Labor for Palestine. So that was an important development, and we're seeing the fruits of it in the position that the NDP and its leader now are taking in relation to specifically the embargo of arms shipments and sales to Israel. Last year, we had at the beginning of the pandemic, and if you recall, at that time, workers in Palestine were of course fighting and trying to deal with the pandemic that was spreading within Palestinian communities and the occupied territories, but also they were dealing with an occupation and the exploitation of Israeli employers, of Palestinian workers who were crossing from the occupied territories into Israel. And so it was, there was a need at that time for some concrete solidarity. We work with our partners in Palestine, in particular the new unions, as well as the Palestinian Postal Service Workers Union and the childcare workers, to raise funds for them so we can provide for support for families who were facing the pandemic and the occupation. And we managed to raise about $30,000 or more. I can't remember the exact number in number of weeks. So these are some of the things that we've worked on over the past few years.
Maybe I wanted to ask you about the upcoming Canadian Labour Congress convention, which is, it's just coming up in a matter of weeks now, and with the current context in Palestine, I'm sure that you had plans already for the convention, but I wonder how this may have altered your plans or have brought in them a new level of urgency, and what we can expect at the convention.
Well, I think it's a very good question, because we're having to figure out virtually how to connect with the activists who are delegates to the convention. In the lead up to the convention, of course, we have to do things differently, because we cannot hold meetings at the convention venue itself in order to interact directly with those activists. Everything is done virtually. And this is an exceptional convention in the sense that there isn't the same process to submit resolutions. I think even the timelines for the convention are not as extensive as those that you would see in a normal convention. The situation on the ground in Palestine now with Israeli massacres, ethnic cleansing, house demolitions, and illegal evictions, and the repression and suppression of the Palestinians in the area that was occupied in 1948. All of that has given us an opportunity to put forward some emergency resolutions that we are taking to the convention. The CLC doesn't have a BDS position as such, like CUPW or QP Ontario or even Unifor National. What they do have, however, are good policies As far as settlement products are concerned, as far as calling on the government to not sell Israel to weapons, sell weapons to Israel. And so we want to put forward the resolution that recognizes the very special moment that we are in as far as Palestine solidarity is concerned, and target, I think, in particular right now, there is an opportunity to specifically target the weapons sales to Israel that the Canadian government continues to engage in, weapons that are directly going to the killing of innocent people in Gaza who are being buried alive. And our Canadian government is not only complicit, they are enablers. They are supporting Israel diplomatically and politically, but they're also very actively supporting Israel through the bilateral agreements that they have with Israel as far as sales of weapons are concerned and the sharing of this weapons technology. And that is what we want to specifically focus on at the upcoming CLC convention. Now, that is as far as what Labor for Palestine is looking at, and we're working with other groups. But I can tell you that, again, considering the situation on the ground in Palestine, I really would see a number of resolutions coming from various locals and labor councils and labor bodies across the country, probably tackling different aspects of the solidarity movement with Palestine. And we want to pool those resources if we can and focus them in a way that we can come out with something politically strong, but at the same time, hopefully has a very specific application in terms of concrete solidarity with the people in Palestine as they need it right now more than ever.
One of the things in terms of why the union movement has always sort of has been able to take a weak position, and it's interesting because it's a different reason than that of even liberal politicians, right? They always claim we're simply following the lead of our brothers and sisters trade unions in Palestine. And also the Histadrut, right? That that there is this agreement between the Histadrut and the PGFTU, the Palestinian General Federation of Trade Unions. So that they constantly use this as an excuse to undermine any real position of solidarity with the Palestinian people and actual Palestinian workers. So if you can talk about that, and you mentioned them also the landscape of the trade union movement in Palestine that are playing a more radical role in pushing for BDS and building that grassroots movement and trying to move away from the Histadrut and the way that they've been shackled by, I guess, apartheid within even the trade union framework in Palestine.
Yeah, well, you know, I do want to recognize first and foremost that the labor movement's position on Palestine has shifted dramatically over the past 30 years, even over the past 20 years. And I would credit in part, I mean, yes, the intensification of the repression of the Palestinian people has been exposed. But I do want to credit the BDS movement for going international and providing an opportunity to coalesce our forces around a particular international campaign that is similar to the struggle in South Africa at the time of apartheid that we all in the West could kind of relate to because a lot of us engaged in that struggle. But I can tell you the labor movement from where it was 30 years ago, even 15 years ago when I started working at the Canadian Labor Congress, I went into my office and outside my office door, there was a painting and, it, you know, interesting painting. I came to take a look at it, to read it. And at the bottom, it was a present given from the Histadrut to the Canadian Labour Congress. Now, of course, that painting came down rather quickly from near my office door. But I can tell you that those relationships that were very intimate and very close between the Histadrut and the Canadian Labour Movement don't exist anymore. Although they haven't broken relations with the Histadrut, but I don't even remember when the last time a Histadrut delegate came to the CLC convention, okay? And you know why they don't come. They get invited, by the way, but they don't come because they know that they will not be welcomed by the rank and file at a convention floor. So they will not even dare set a foot in a Canadian Labour Congress convention. That wasn't the case before. In fact, we had leaders of the labour movement in Canada who, similar to other Western countries, who were Zionists, okay, and they boasted about it. While there may be some right now in the Canadian labour movement, I dare them to come out and defend the state of Israel. I dare them to come out, okay, and say that they support a state that engages in apartheid, ethnic cleansing, and nothing but massacres and terrorism against the Palestinian people. You don't find it. If they are, they work underhandedly, under the table, and they don't have the moral or political courage to come out and say so, because they know that the rank and file of the labor movement, as it is, in my view, for the majority of Canadians, is in support of the struggle of the Palestinian people, and they see what Israel has become and is all about. I can't remember the rest of your question at all. I know I went somewhere else, but...
Oh, just you touched upon it, upon the new unions and the post, the union landscape in Palestine.
True. Yes. I mean, you did ask about that relationship between the Histadrut and PGFDU, and that has posed a problem for us in the past. Definitely. While no Palestinian labor organization opposes the BDS movement, in fact, all of them endorse it, not all of them actually actively support it. And because there is this relationship, a subservient relationship, in my opinion, between the Histadrut, or between the PJFDU and the Histadrut, it is similar subservient relationship that you see between the Palestinian Authority and Israel, which is really a problem. So that cooperation between these two labor bodies, in my view, comes at the expense of the Palestinian people, as the security and other cooperation between the Palestinian Authority and Israel comes at a heavy cost to the struggle of the Palestinian people for liberation. We face it here because you're right, when labor organizations in Canada want to take a position on Palestine, more often than not, they get in touch with their partners in Palestine or in Israel to say, what about this or that position? And that has set us back, because the message they get from some of the leadership, certainly of the Palestinian General Trade Union movement, definitely the Histadrut, is one of defeatism, at least, or do nothing. But over the past few years, we've developed really good relationships, not only us, but labor organizations in Canada, with independent unions that are more committed to the BDS movement, more committed to the fundamental right of the Palestinian people to struggle for their liberation. And they have an independent position vis-a-vis the Palestinian Authority. I mentioned earlier the postal workers, the new unions. There are unions in the municipal sector, in the childcare sector, in the university sector. The union that of journalists and so on, they have taken a good position in the past. We have good relationship with some of them, and we continue to work with them going forward to deepen those worker-to-worker links of solidarity between us and them. And a lot of them as well, I should add, are involved in the BDS movement, and they sit on the Boycott National Committee. And so that is important also to recognize. So there are some difficulties there, but think on the whole, there's been some gains in terms of building those relationships.
So speaking about the labor movement in Palestine itself as being, you know, a real force for change, tomorrow there's been the call for Palestinian and Palestine-wide and global general strike with global solidarity. If you can talk about tomorrow's general strike, what are the demands and what is being asked of in solidarity with them tomorrow?
So I think the significance of the general strike tomorrow is that it is historic in the sense that we haven't seen a general strike engaging workers right across the board, not only workers, but people right across the board in all of Palestine. I believe that this is the first general strike of this kind of magnitude that's happened since 1936. Before the establishment of the State of Israel. And the general strike at the time was specifically directed at the colonial occupying power at the time, Britain. That is the significance of this strike, because after years of fragmentation of the Palestinian people, right now they are coalescing together right across Palestine, those who are where in 1948, we call it the inside 1948 land, Palestinians in the occupied territories in East Jerusalem, as well as in Gaza, are coming together to have the strike to essentially, it's a strike, it's a boycott in retaliation of the brutality of the Israeli occupation, the apartheid system, the ethnic cleansing, the massacres that are happening against Gaza. So they are throwing their power, the people's power, behind the struggle for national liberation of the Palestinian people. And I think this is an amazing historic moment that we are witnessing. And of course, they are calling on labor unions and mass democratic organizations and civil society groups and peace groups right across the world to stand in solidarity with them in whatever they can do. There isn't one particular action that they are demanding. Raise your voice, speak out, amplify the voices of Palestinians who are fighting against the occupation and for the liberation in whatever way you can. If you can, you know, use your social media contacts, if you can take an action in your workplace, if you can organize a webinar, whatever it is, do it and support the Palestinian people to by amplifying their voices and in support of their own liberation. It's very significant and great action for everybody in Canada to hopefully participate in.
Thank you very much, Hassan. And just to wrap it up, how can people get involved with Labor for Palestine if they're trade unionists, if they're rank and file activists? How can they get involved with Labor for Palestine?
Well, there's one quick way that they can get in touch with us. Well, everybody's connected on social media these days. The Twitter handle is Palestine Labor, right? They can go in there, they can follow us, they can send us a message that way. And that's the best way to contact us. Give us their contact information. We'll add them to our mailing list, and we can plug them into the work that we're doing in their region, in their city, or in their union.
Thank you so much, Hassan.
Thanks a lot. It's been a pleasure.
Thank you. Thank you both for doing this. That's.
Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Labor Radio sur l'antenne de CKUT 90,3 FM. On est avec Jad Kabanji, qui est un chercheur indépendant, un historien et membre du collectif éditorial chez les Nouveaux Cahiers du Socialisme. On va parler notamment de la situation au Liban. Jad était pris part à un panel sur le mouvement syndical au Liban récemment, puis a publié un article sur les nouveaux cahiers à ce sujet, aussi un article récemment sur la situation en Palestine. Donc, on va parler d'un peu de tout ça. Merci de nous avoir choyé de ta présence, Jad. Merci.
Ben, merci à vous, puis bonjour ou bonsoir les personnes qui nous écoutent.
Donc, commençons d'abord avec la question du panel que vous avez organisé avec des syndicalistes libanais au début du mois de mai. Voulez-vous nous parler un peu de c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser ça, pourquoi est-ce que c'est un moment opportun pour avoir ce type de conversation?
Ben, comment on peut débuter par la crise déjà qui se passe au Liban, là, pour aller brièvement, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais juste c'est une crise structurelle qui affecte tous les niveaux de la société et en particulier le monde du travail. Et heureusement, on a des gens qui essaient de s'organiser là-bas. C'est très difficile. Et parmi les gens qui essaient de s'organiser, ben, on a des regroupements syndicaux indépendants des partis du pouvoir et qui essayent de donner de la voix dans un contexte de crise qui n'est pas très favorable pour eux. Fait que ici, on a créé depuis quelques mois avec des Québécois, des Libanais, un groupe de solidarité avec le Liban, ça s'appelle le groupe Travail Liban. Et parmi les activités qu'on fait, qu'on veut faire et qu'on a déjà fait, c'est la question de la solidarité syndicale. Donc on s'est dit comment nous on peut aider, ben, on peut connecter les syndicats de là-bas qui essayent de s'organiser dans le cadre de la crise actuelle, avec des syndicats ici qui sont combatifs. Fait que de là est partie l'idée de nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Libanais là-bas? Et la meilleure manière qu'on a trouvée, bah, c'est de connecter le monde syndical, ou une partie du monde syndical libanais, et une partie du monde syndical québécois. Fait que c'était un début, je ne pense pas que ça a déjà été fait par le passé. Je pense que c'est la première fois que les organisations syndicales comme ça se parlent. Fait que voilà, c'est ça.
J'ai une question, Jacques, parce que c'est avec les crises aussi, c'est bon, les crises économiques au Liban. C'est des questions, c'est parce que c'est lequel secteur de plus organisé, parce que c'est toujours des questions dans le monde arabe, c'est pas comme l'Asie ou Mexique ou les Philippines, c'est le marché de travail, c'est vraiment différent au Liban. C'est le secteur public, les secteurs informels, c'est qui plus organisé dans le terrain?
Ben alors ça, il y a plusieurs secteurs qui sont assez organisés. Mais si on veut parler d'un secteur peut-être plus organisé que les autres, qui a une lutte, qui a une histoire récente de lutte et de succès, et c'est le syndicat des professeurs du primaire et du secondaire, qui est représenté par le courant syndical indépendant qui était là au panel avec Hilda Mazraani. Eux, leur histoire récente remonte il y a une dizaine d'années où ils ont mené une grosse, grosse bataille. Ils ont gagné d'importantes augmentations salariales. Et le fait important, c'est que cette bataille syndicale, c'est une des premières qui a révélé vraiment aux yeux du monde la nature même du système libanais. C'est-à-dire que ce syndicat indépendant des partis du pouvoir menait une lutte revendicative qui concernait les conditions sociales, les conditions socio-économiques pour les professeurs. Face à ce syndicat-là, on a eu tous les partis politiques regroupés qui ont fait alliance pour battre ce syndicat à l'intérieur des élections syndicales. C'est-à-dire, on avait autant du spectre du 8 mars que du 14 mars, c'est-à-dire les deux faces de l'opposition officielle, entre guillemets, au Liban, qui ont laissé tomber leurs différends pour s'allier et pour battre ce syndicat indépendant. C'était au début des années 2010. Fait que, je dirais, le syndicat des professeurs, pour l'instant, on peut dire que c'est celui qui a peut-être la lutte la plus récente, disons, revendicative. Après, historiquement, au Liban, on a une riche histoire de lutte syndicale. Des usines Randour de friandises dans les années 70, où il y a eu une grande grève, où il y a eu des morts durant cette grève-là, jusqu'à la grève générale de 92 par la CGTL, avant que la CGTL, qui a la Confédération générale du travail au Liban, qui a la grande confédération libanaise, qui a été phagocytée par les partis du pouvoir à partir de la fin des années 90. Mais avant ça, quand elle était encore indépendante, elle a mené d'énormes actions syndicales, et notamment cette grève générale de 1992, qui concernait plusieurs secteurs du travail.
Donc, dans un contexte maintenant de crise économique extrêmement grave, on parle d'un taux d'inflation fulgurant, les salaires qui ne sont pas ajustés en conséquence, évidemment, puis donc les conditions de vie qui se dégradent extrêmement rapidement. C'est quoi l'approche d'un syndicat qui essaie de défendre les conditions de travail, mais aussi, je veux dire, le pouvoir d'achat, quand un syndicat n'a pas nécessairement les outils du pouvoir pour changer la valeur de la monnaie, ou des outils macroéconomiques et tout. Donc, quel angle est-ce que prennent les syndicats les plus combatifs en ce moment pour essayer de changer le cap un peu, ou de au moins défendre les intérêts de leurs membres?
Ben là, en fait, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Première initiative qui avait commencé avant le 17 octobre 2019, mais qui a surtout pris effet à partir du 17 octobre 2019, c'est la campagne d'éveil. C'est réveiller les gens sur la vraie nature du système et sur l'importance de l'organisation syndicale pour mettre fin à ce régime-là. Ça, c'est de un, l'éveil. De deux, il y a aussi une campagne pour l'unité des forces syndicales, parce qu'au Liban, on a énormément de syndicats éparpillés qui sont peut-être forts par secteur, mais qui ne sont pas rassemblés. Alors, la deuxième bataille, c'est la bataille de l'unité également. Il y a parmi les syndicalistes les plus combatifs, les plus avancés, une volonté de faire l'union, que l'union soit la force. Fait que je dirais, pour l'instant, c'est ça les deux choses majeures. Après, comme tu disais, ben, l'inflation est énorme. La livre était à le dollar se négociait à 1500 livres il y a même pas 2 ans, et là aujourd'hui il se négocie à 15 000, un dollar à 15 000 livres. Fait qu'on a le salaire minimum étant de 600 000, je pense, 600 000 livres ou 700 000 livres, Fait que du coup, si on le convertit en dollars, c'est moins de 100 dollars. Parallèlement que au Liban, c'est une des autres particularités de ce système, c'est que tout est importé. Fait que du coup, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière exponentielle, et ce qui place les gens dans une misère extrême. Alors du coup, quand tu es dans une misère extrême, tu n'as pas tendance à vouloir lutter pour tes droits en tant que salarié, mais plutôt pour tu dois lutter pour ton gagne-pain. Fait que les gens sont rendus là maintenant. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir après ça, après cette crise-là. C'est ça qui est important actuellement. Voilà.
C'est pour les syndicats d'avoir des programmes où il y a des luttes entre les syndicats, mais là, pour les classes politiques et les classes de 1% ou le ruling class, avoir c'est parce que c'est en avant les bons admettre le programme de néolibéralisme. C'est comment la solution pour la classe politique au Liban dans cette crise ou juste laisser comme ça. C'est impossible pour privatiser plus. Ou je ne sais pas, c'est encore possible pour privatiser. Il y a des choses pour priver encore au Liban. C'est quelle solution pour la classe politique au Liban, rien de plein.
Ok, est-ce qu'il y a des choses à privatiser? Il reste toujours des choses à privatiser, notamment le secteur de l'alimentation, de l'électricité, qui est très, très défaillant. Tu sais, et on le sait tous, que pour privatiser une société publique, on doit la rendre inefficace, pour dire aux gens que voilà, elle est inefficace, fait que si elle va être privatisée, ça va être mieux. Fait que c'est comme ça qu'on fait rentrer dans la mentalité des gens qu'il faut privatiser. Fait que là, la prochaine étape, je pense que ça va être ça. C'est la société d'électricité, l'électricité du Liban, qui ne fournit presque plus d'électricité aux gens, qui risque d'être privatisée. Mais ça, c'est juste pour dire qu'il y a encore des choses, hein. Mais l'important n'est pas là, c'est que la deuxième chose la plus importante qu'ils peuvent encore enlever aux gens, c'est les subventions pour les denrées de première nécessité. Le pain, le mazout et les médicaments, pour ne parler que de ça. Maintenant, il y a encore un contrôle des prix. Là, on parle que dans un mois, on va arrêter ce contrôle des prix. C'est-à-dire que là, il va y avoir, s'il y a déjà un appauvrissement généralisé, là, ça va être quelque chose comme bien pire que ce qu'on voit actuellement. Et au niveau économique, c'est peut-être ça qu'ils peuvent encore faire, là. L'oligarchie au pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, là. C'est une oligarchie. Après, au niveau politique, cette oligarchie, elle a compris que le système sur lequel elle s'est assise pendant des décennies, presque 100 ans, est arrivé à bout. Que la prochaine étape, c'est peut-être une fédéralisation du Liban. C'est que chaque communauté ait sa petite parcelle du Liban dans une micro-confédération qui serait viable que pour les princes de chaque confession. C'est ça aussi qu'il y a derrière la logique de pourrissement actuel, de laisser faire. C'est que on ne règle pas, on ne donne pas les moyens pour régler cette crise-là, pour au bout arriver à l'implosion complète du système et aller vers une fédéralisation, une confédéralisation du pays où chaque confession, chaque leader confessionnel, chaque zaïm, comme on dit en arabe, garde sa primauté sur sa confession.
Ouais, ça c'est, on parle d'une vraie désintégration du système politique là. Ce que ça me rappelle un peu, c'est des fois c'est ce que fait l'impérialisme américain avec l'outil de la guerre, hein, souvent comme par exemple en Syrie ou en Libye, mais ici on parle d'une crise économique qui mènerait à un résultat un peu similaire. Est-ce que c'est ça que je comprends? Parce que pour moi, je veux dire, l'idée que c'est ça, c'est la guerre, c'est un moyen direct de détruire une entité politique. Tandis qu'une crise économique, ça peut sembler un peu moins direct. Est-ce que c'est la bonne analyse que de dire que c'est moins direct, ou est-ce que dans la crise actuelle, tu vois vraiment la main des pouvoirs impérialistes?
Non, 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 c'est pas la crise au Liban, elle n'est pas localisée, n'est pas qu'au Liban. C'est une crise du système capitaliste mondial, c'est une crise du système de production. Comme on le sait, le capitalisme, c'est un système de crise, par définition. Le capitalisme, c'est la crise. Et quand la crise est terminée, il y a une reprise. C'est crise, reprise. C'est comme ça que le système vit. Là, actuellement, on est dans une période de crise, mais la crise, elle n'est pas qu'au Liban. Elle est mondiale. Et elle frappe tous les pays qui ont des économies capitalistes. Et de ce point de vue-là, je dirais pas que les Américains ont quelque chose à voir dans la crise actuelle. Peut-être qu'ils ont aggravé certains côtés de la crise actuelle à travers les sanctions qu'ils ont mises sur le Liban et qui affectent non pas les élites politiques, mais bien le peuple, comme d'habitude. Mais je dirais leur tort, c'est plutôt dans la gestion de l'après-guerre froide dans la région. Le projet du Grand Moyen-Orient, il a beaucoup affecté un pays comme le Liban, un pays comme l'Irak, qui s'est libanisé. L'Irak s'est libanisé après l'entrée des Américains. On a confessionnalisé ce pays. Maintenant, en Syrie, on assiste plus ou moins à la même chose, même s'il y a encore un semblant d'État. Mais faut dire que les régimes confessionnels ou confessionnalisés servent bien les intérêts des puissances étrangères. Et au Liban, on a ce système, ce système confessionnel. C'est que derrière chaque confession, on a un protecteur. Et ce protecteur, il est toujours étranger, toujours vers l'extérieur. C'est pour ça que le Liban est très tourné vers l'extérieur, que ce soit économiquement, politiquement, dans tous les domaines.
Je peux aller, parce que c'est... On peut juste peut-être retourner, parce que c'est... On a parlé en avant les perspectives de solidarité entre les mouvements syndicaux avec les mouvements syndicaux au Liban. Peut-être pour juste parler un peu, parce que c'est l'intervention, c'est très intéressant, c'est très riche, et les différentes personnes, c'est dans les différents syndicats au Liban, aussi il y a une personne qui parlait avec c'est qui travaille avec Fenesoul, c'est peut-être juste, c'est possible juste pour un résumé de l'événement organisé pour le 1er mai par le Centre culturel libanais ici à Montréal. C'est parce que je pense que c'est la première fois que j'écoute une chose comme ça. c'est le temps d'un forum comme ça.
Oui. Oui, tout à fait. Pour résumer, c'est ça, on va revenir vers la première question, on va faire le lien là. On a eu trois intervenantes venant du Liban. Farah Abdallah, qui représentait la FENASOL, la Fédération nationale des syndicats au Liban, je pense, c'est ça, et qui parlait plus particulièrement de la question des travailleuses domestiques et de la mise en place du syndicat des travailleuses domestiques. On a eu Hilda Mazraani, que j'ai déjà évoqué plus tôt, qui parlait de la lutte des profs au Liban et surtout depuis la crise économique, comment la crise économique a affecté énormément le travail, a aggravé les conditions de travail des professeurs au Liban. Et on a eu Tarek Hijazi, qui représentait le rassemblement des professionnels et des professionnelles, ce qui est un regroupement plutôt de syndicats de professions libérales, avocats, médecins, ingénieurs, journalistes, voilà, plutôt des plutôt de des métiers libéraux, c'est ça. Et ce syndicat a été créé juste quelques jours après le déclenchement des événements du 19 octobre. Et finalement, celle qui a parlé, qui était représentante du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, qui est Chantal Hid, elle a parlé de l'importance de la solidarité syndicale, de l'importance dans ce moment de la solidarité syndicale internationale et de soutenir les initiatives qui se passent au Liban. Et surtout, elle nous a donné un mot d'espoir qu'il n'y a que la lutte qui peut nous faire gagner. Voilà.
Mais aussi pour moi, c'est intéressant parce que c'est toujours, je pense, ou maybe je suis pas correct dans l'analyse, parce que c'est dans le contexte, les mouvements syndicaux, le mouvement ouvrier, au Liban, les questions de travailleuses, de migrants, c'est une grosse question parce que c'est pas comme les autres pays dans le monde. C'est juste les travailleurs, travailleuses. C'est vraiment tous les travailleurs migrants. Au Liban, c'est vraiment différent, mais il y a beaucoup de travailleurs migrants à la même temps. Dans le travail domestique, agricole, les personnes qui travaillent dans la place de pétrole et tout ça. C'est vraiment une dynamique difficile aussi pour les mouvements. La base, c'est ça, c'est pour moi, c'est pourquoi l'événement tout est organisé. C'est vraiment spécial parce que c'est toutes les voies dans le même espace.
Oui, le travail, les travailleurs migrants au Liban, ça date pas d'hier. Hein. C'est même très ancien. C'est avant la guerre, déjà dans les années 50, 60, on avait beaucoup de travailleurs syriens qui étaient dans le domaine de la construction. Mais l'arrivée massive de travailleurs migrants au Liban s'est faite avec le tournant néolibéral, c'est-à-dire avec le début de l'ère Hariri, quand on a dollarisé l'économie libanaise. Et il y a eu en parallèle la période de tutelle syrienne. Alors, l'idée derrière toute cette période-là qui débute à partir de 92, c'est que On laisse la main libre à Hariri pour faire tout ce qu'il veut au Liban, pour privatiser tout, mais en même temps, pour la reconstruction du pays qui venait de sortir de la guerre civile, on va faire appel aux travailleurs syriens. Et là, il y a eu des centaines de milliers de travailleurs syriens qui sont venus, qui ont bâti le Liban de l'après-guerre, on peut dire ça ainsi. Il y en a des dizaines, des centaines et des milliers qui sont morts sur les chantiers également, parce que les conditions de travail étaient pitoyables à l'époque. Et également, on avait en parallèle des travailleurs qui venaient d'autres pays d'Asie du Sud-Est, surtout des femmes qui travaillaient en tant que domestiques. C'est à cette période-là que le travail de domestique s'est généralisé, parce que les gens gagnaient en dollars, ils gagnaient relativement bien, souvent. On a eu la naissance d'une classe moyenne ou bien une généralisation des couches moyennes dans la société libanaise à cette époque-là, à l'époque de, au début, à partir du début des années 90 jusqu'à la crise, où les gens, on a eu des centaines de milliers de Libanais qui avaient les moyens. Et ces gens-là, on fait appel à des domestiques qui venaient souvent ou d'Afrique ou d'Asie et qui les payaient 100, 200 dollars par mois. Fait qu'on a eu, c'est comme ça que le phénomène de travailleurs migrants s'est développé au Liban. Après, avec la crise du 17 octobre, c'est plus la même chose. Et il y a beaucoup de ces domestiques, par exemple, qui ne sont plus payés par leur famille qui les accueille, qui sont à la rue maintenant, et dont les ambassades ne s'occupent pas d'eux. Et dans ce cadre-là, la FENASOL, par exemple, tente d'organiser ces travailleuses domestiques. Et elle a réussi quand même à créer un syndicat, par exemple, de travailleuses domestiques au Liban. Voilà.
Peut-être juste une dernière question en terminant, là, parce qu'on ne reste presque plus de temps. Mais vous avez mentionné l'importance de la solidarité syndicale dans le contexte du panel là, entre le Québec et le Liban. Mais là, aujourd'hui, c'était la grève générale en Palestine. Quelle solidarité est-ce qu'on peut observer entre les syndicats palestiniens et libanais en ce moment?
Ben, il y a toujours eu une grande solidarité parmi les syndicats combatifs libanais, bien sûr, et les syndicats combatifs palestiniens. Il y a eu une grande solidarité historiquement, et ça ne date pas d'hier. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Je pense la FENASOL, elle est descendue aujourd'hui, par exemple, à une grande manifestation à Beyrouth, organisé par des Libanais et des Palestiniens qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes. On avait la présence de ce syndicat-là. Il y a d'autres syndicats également, comme le syndicat des avocats au Liban, qui a dénoncé les crimes israéliens qui sont commis actuellement. On a plusieurs initiatives comme ça. C'est plutôt à travers des manifestations, des communiqués, parce que maintenant, avec la misère actuelle au Liban, on ne peut pas soutenir matériellement, disons, le combat des Palestiniens, mais c'est clair qu'il y a toujours un soutien très fort de la part de syndicats combatifs au Liban pour la cause palestinienne, qui est la cause qui est toujours la principale raison de lutte pour la gauche, je dirais, grosso modo, au Liban et les syndicats de gauche également.
Ben, peut-être qu'on va laisser ça là. Et merci beaucoup, Jad, d'avoir participé à l'émission. C'est sûr qu'on va surveiller le Liban, là, surtout avec la connexion qu'on a maintenant. Donc, on va peut-être faire appel à toi dans une émission un jour.
Oui, merci beaucoup. Et c'est la prochaine fois, c'est on...
Learned from COVID-19 is that something small can spread quickly, like a ripple. If enough of us do our part by getting vaccinated, we can start a wave. A wave of Canadians helping each other return to the people and places we love. We can all help by getting vaccinated. Learn more at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pour quoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée.
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Good evening. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. I'm your host, Sarah DeAy, recording from home on Thursday, May 20th, 2021. On tonight's show, my guests, Camilla Fitzgibbon of Tableau d'Hôte Theater on making space for the class of 2020.
I'm actually a recent theater school graduate as well, and I was sort of thinking when the pandemic hit,